Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale de Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés dans un endroit de rêve, le domaine de la Vallongue au cœur de l'appellation Beau de Provence. On va parler beaucoup de ce vignoble aujourd'hui avec nos deux premiers invités qui prêchent, comme tout le monde ici, la consommation modérée et responsable, Caroline Missoff et puis Bertrand Malossi. Bonjour à tous les deux. Alors, honneur aux dames, Bertrand, nous sommes d'accord, quoi. Alors, Caroline, racontez-nous. Vous avez une double casquette, propriétaire et présidente de cette appellation. Un mot sur l'historique de l'appellation. Elle est récente ou pas, Beau de Provence ?
Beau de Provence, une appellation qui est née en 1995, après beaucoup de travail de l'équipe des vignerons des Beaux, qui voulait absolument avoir cette appellation. Donc, nous l'avons obtenue en 1995 pour les rouges et les rosés uniquement.
Pas les blancs ?
Pas les blancs, parce que nous trouvions que nous n'étions pas assez homogènes, qu'on n'avait pas tout à fait travaillé ensemble assez bien. Et du coup, on a eu l'appellation en 2010.
Pour la partie blanche. Donc aujourd'hui, les trois couleurs sont en...
Voilà, les trois couleurs maintenant sont sous l'appellation AOP Les Beaux de Provence.
Et au total, le nombre d'hectares, tout vigneron confondu, on va dire, ça représente combien ?
219 hectares.
Et donc c'est petite appellation qualitative.
Voilà, une appellation très qualitative.
Et que des gens sympas en plus, non ?
Que des gens sympas, que des vignerons sympathiques.
Bon, et vous êtes combien dans votre club là, de propriétaires ?
Alors, nous sommes 10 vignerons.
D'accord.
10 vignerons, et c'est une appellation qui est plus connue pour ses rouges que pour ses rosés, contrairement à ce qu'on pourrait croire en Provence. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes 100% des vignes sont cultivées en bio, biodynamie.
Pour l'ensemble des différents domaines, vous dites.
Tout à fait. Nous sommes.
Ça, c'est un choix personnel, c'est un choix de chaque vigneron. C'est l'appellation qui a dit allez, on y va tous en bio.
Tout à fait. Petit à petit, l'appellation s'est mise en bio. On n'en a plus qu'un qui est en lutte raisonnée, donc il va se mettre au bio. Et on sera, on espère, une appellation 100% bio ou biodynamie d'ici quelques temps.
Et le client, ça l'intéresse vraiment ça ? C'est un plus pour vendre du vin, ça, ou pas ? Ou c'est juste la philosophie du vigneron ?
Non, je pense que si tout le monde s'y est mis, c'est que c'était une demande aussi de la clientèle.
Oui.
Et voilà, surtout après tout ce dont on parle, des pesticides, des choses comme ça. Bon, nous, on a de la chance aussi d'avoir un terroir qui est un peu protégé par le Mistral.
Oui, merci le Mistral. Hein.
Voilà, merci le Mistral.
C'est parce naturellement bio grâce au Mistral.
Voilà, quoi. Et grâce à ça, si vous voulez, je pense qu'on peut tous être en bio et... Voilà.
Alors l'actualité, la semaine prochaine, il y a un rallye qui se profile à l'horizon.
Tout à fait.
Racontez-nous un peu les coulisses de ce rallye. Alors
tout à fait, nous organisons pour la troisième édition du rallye des Vignerons des Beaux, qui est un rallye qui commence à avoir beaucoup de succès, car nous avons commencé à 140 participants la première année, et cette année, nous sommes complets, un mois et demi avant, avec 322 participants.
322 participants. Et alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura comme type de...
C'est une manière pour eux, si vous voulez, on a voulu lancer ça, c'est une manière pour le public de découvrir un petit peu les domaines, parce que ils n'ont pas toujours l'idée de se dire, tiens, on va aller dans un vignoble. Et donc, nous créons des parcours et au cours de cette journée, le public peut visiter trois domaines. On s'est associé aussi avec les mouliniers, parce que c'est vrai que l'huile d'olive
c'est
quand même une particularité de notre appellation, puisqu'il y a aussi une appellation AOP Vallée des Beaux en huile d'olive. Et donc, du coup, au cours de cette journée, les gens découvrent trois domaines et un moulin. Voilà.
Et donc les trois domaines changent chaque année, je suppose. C'est pas toujours les mêmes qui accueillent.
Nous sommes 10, donc ouais, si vous voulez, en fait,
il y en a juste un, 3x3.
Oui, la seule chose, c'est que nous ne pouvons pas faire recevoir 320 personnes dans chaque domaine. Donc en fait, il y a 5 parcours qui sont créés. Et les gens aussi refont d'une autre année, ils peuvent demander un autre parcours, donc ils peuvent refaire le rallye plusieurs fois.
Donc ça, c'est ouvert au grand public, c'est réservé, c'est quoi ?
C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde.
Et ça sera sur deux jours, le week-end prochain, quoi ?
Non, c'est seulement sur une journée.
Donc c'est samedi prochain ou c'est dimanche prochain ?
C'est samedi 28.
Samedi prochain,
samedi 28. Et voilà, et après, ils sont reçus à déjeuner dans les domaines qu'ils reçoivent.
Bon, il faut y aller nombreux, c'est quand même génial. Alors, le match de la dame, racontez-nous, donc ça, c'est votre deuxième casquette, parce que vous n'êtes pas présidente. Si, vous êtes présidente depuis 6 ans, c'est ça ?
Oui.
C'est un job à temps plein. Et c'est bénévole en plus, non ?
Presque à temps plein, mais heureusement pas à temps plein, parce qu'il faut quand même que je m'occupe du match de la dame.
Alors justement, racontez-nous un peu l'historique. Vous en avez hérité, vous l'avez racheté, l'historique du match de la dame ?
Tout à fait. En fait, nous sommes à la quatrième génération. C'est notre arrière-grand-père qui avait acheté ce domaine. Et c'est notre grand-père qui a complètement replanté la vigne, les oliviers, construit une cave. Mes parents ont repris par la suite et ma sœur Anne Poniatowski et moi-même, nous avons repris la propriété il y a 25 ans à la suite du décès de notre père.
Et bosser en famille, ça va ? Vous entendez bien les deux sœurettes là ?
Oui, oui, tout à fait. Non, ça se passe bien.
Écoute l'émission, attention. C'est...
Voilà, surtout que, si vous voulez, on n'a pas été élevés ici, on a été élevés à Paris, on était journalistes toutes les deux, on avait des métiers totalement différents. Et en fait, bah, on s'y est mis petit à petit, et c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. On est... Voilà, on est dans un domaine, on a fait.
Parce que 220 000 bouteilles, hein, vous me disiez ça hors antenne, ça fait quand même beaucoup, il faut les vendre. Hein, c'est... Vous avez quand même une recette magique, ça s'appelle le caveau.
Entre autres, oui, nous avons le caveau. Nous avons de la chance d'être situés au pied des Baux-de-Provence, donc nous avons beaucoup de passages. Nous organisons des dégustations, les gens peuvent venir au domaine par groupe, en particulier. On est ouvert 7 jours sur 7.
Toute l'année ?
Toute l'année.
Donc, si on vient le 1er janvier, c'est bon.
Le 1er janvier, 25 décembre.
Oui, quand même. Voilà. Quel rapport entre vous, Nostradamus et puis Van Gogh ?
Alors, Van Gogh a été interné à Saint-Paul, à Saint-Rémy-de-Provence, et nous avons eu la chance d'avoir un tableau, la maison, le Mas dans les Alpes, peint par Van Gogh en 1889. Et la deuxième petite anecdote, c'est que Nostradamus a annoncé un jour que la mer recouvrirait la terre et s'arrêterait à la stèle du Mas de la Dame.
Oh, ça, c'est génial,
ça. Voilà. Et de ce fait, mon grand-père a réinstallé des stèles autour de la propriété.
Waouh, c'est QFD, quoi. C'est... Et alors, au niveau exportation, en revanche, 15%, bon, parce que c'est
oui,
comme
nous,
ça.
Voilà, voilà, on fait 15%, on vend particulièrement beaucoup aux États-Unis et puis dans les pays d'Europe, des petits marchés dans les pays d'Europe.
Oui, et donc,
on fait 15%, mais si vous voulez, comme on vend quand même énormément en France, on n'a pas forcément besoin, si vous voulez, de vendre tellement plus.
Une clientèle de particuliers qui vient visiter la région, qui reste fidèle.
Particuliers, restauration, hôtel, alors beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, des locaux qui viennent. Voilà. Et on a beaucoup, chaque année, les gens sont fidèles, les gens reviennent. Et...
Ouais. Voilà. Donc la vie est belle, quoi.
Écoutez, la vie est belle.
À l'image d'aujourd'hui, on est dehors, il fait un temps magnifique.
La vie est belle et on est dans une très belle région.
Merci Caroline. Invino Sud Radio accueille maintenant Bertrand Malossier, qui est le directeur de l'exploitation du domaine de la Vallon. Bertrand, il y a plusieurs domaines, hein ? Vous en occupez de trois, c'est ça ?
Oui, dans le groupe, nous avons trois domaines. Le domaine des Terres Blanches à Saint-Rémy-de-Provence, donc le domaine de la Vallongue ici à Galières, et le château La Genestière à Tavel.
Et donc ça appartient à l'excellent Christian Latouche, c'est ça qui...
Tout à fait, oui.
Qui a s'intéresse au vignoble, hein, attention.
Oui, au vignoble et à l'oliveraie, puisqu'il a commencé avec une oliveraie à Galières qui fait maintenant à peu près 50 hectares d'olives sur Galières, d'oliviers, et 20 hectares sur Nove, et plus les trois domaines viticoles qui ont été acquis successivement et dont il veut faire des pôle d'excellence.
Oh bah c'est déjà bien parti. La Vallongue, c'était à l'époque, il y a un siècle, une bergerie, c'est ça ?
Oui, c'était une bergerie, donc les bâtiments...
Jolie bergerie, étaient bien les moutons quand même.
Ils étaient bien les moutons, mais ça a été... Tout le domaine a complètement été restructuré par M. Paul Cavalier dans les années 70, qui a vraiment bâti les bâtiments, qui a fait la cave, qui a vraiment restructuré le domaine complètement.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, au total, il y a un grand domaine, 300 hectares au total, mais combien planté en vigne, quoi ?
Un peu plus même de 300 hectares. Il y a 450 hectares D'accord. à la Vallongue, de collines, de bois, de garrigues. Et en vigne, on a 37 hectares en production. On aimerait, à terme, arriver à 50 hectares.
Ouais. Alors aujourd'hui, avec cette technique, hein, le spécialiste du vin, là, les vendanges, là, cette année 2019, comme tous les vignerons chaque année disent, l'année du siècle ou pas ?
Espérons. Bon, on démarre juste, hein, donc c'est difficile à dire. On a attaqué la semaine dernière à Terre Blanche, on attaque par les blancs, traditionnellement. On a quand même eu une année difficile, donc on pense qu'on aura une récolte de qualité pour l'instant, puisque quand même la qualité du raisin, du vin fini est quand même déterminée beaucoup par les conditions climatiques au moment des vendanges. Donc là, comme on démarre juste, on s'est bien parti, on n'annonce pas de grosses pluies. On va voir comment
choses... Caroline, chez vous, c'est pareil, c'est avec la tendance pour cette année, pour ces vendanges
20% en moins de jus, les raisins...
En quantité,
sont petits.
20%.
Ouais, ouais,
c'est beaucoup quand même.
Ouais, 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 20% annoncé. Alors, on a quelques vignes qui ont bien pris. La vigne ne souffre pas, en fait. La vigne est très verte chez nous encore.
D'accord.
Mais les raisins sont petits. Donc, ce n'est pas qu'ils sont secs, c'est qu'ils sont petits. Les baies sont petites, elles ne se sont pas tellement développées. Donc, un peu un manque de jus. Mais c'est pareil, nous avons commencé lundi dernier. Donc, nous attendons...
Faut prier. Vous n'avez pas de chapelle dans le domaine ?
Non, malheureusement.
Mais alors, justement, ces problématiques liées au réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer pour une appellation comme les Baux-de-Provence, là ? Si ils continuent à faire des chaleurs comme on a eu cette année, qui sont quand même importantes, 40-45 degrés, ça sera quoi dans 10 ans, les Baux-de-Provence, Caroline ou Bertrand ?
Ben, on peut penser que déjà, bon, effectivement, là, les températures augmentent régulièrement. Là, cette année, on a quand même eu des summums, notamment au mois de juin, où on a eu des températures qui frisaient les 45 degrés. Il y a un travail à faire sur les cépages, sur le travail de la vigne. On continuera, bien entendu, à faire du raisin et des bons vins dans les Alpilles, mais il va falloir qu'on s'adapte. Certains endroits, on peut mettre l'irrigation, puisqu'il y a des canaux qui passent dans...
Ça, c'est autorisé en France ou pas ?
L'irrigation est autorisée, alors elle est contrôlée, surtout dans les appellations d'origine, donc on doit, à un moment donné, on doit faire état d'un stress hydrique de la vigne.
Stress hydrique, allez-y, c'est le détail technique de l'émission. Vous êtes stressé, vous, ou pas ? Non, vous n'êtes pas stressé.
Un petit peu,
mais tout va bien pour l'instant. Oui. Alors, c'est quoi le stress hydrique ?
Le stress hydrique, c'est quand la vigne commence à souffrir d'un manque d'eau. Donc, évidemment,
mais c'est positif ou négatif pour une vigne ?
Si ça se fait un peu trop tôt en saison, c'est un peu négatif quand même, parce que ça veut dire qu'on ampute énormément le potentiel de production de la vigne. Et comme dit Caroline, ensuite, on a des raisins qui sont petits, qui sont peut-être insuffisamment gonflés en eau. Et l'irrigation nous permet de contrôler certaines... Alors, on n'irrigue pas sur tous les terroirs. Évidemment, un terroir qui est frais, qui est argileux...
On n'en a pas besoin.
Mais sur des terroirs très caillouteux, très secs, très filtrants, il peut arriver qu'on ait besoin d'aider la vigne en juillet, en période de grossissement de la baie. Et c'est là où on a l'autorisation d'arroser. Alors, cette autorisation est donnée par l'INAO.
D'accord.
Sur des bases techniques, évidemment.
Vous demandez, ils vous disent oui, puis après, on y va. Quoi.
On est obligé quand même d'argumenter.
Ces réchauffements climatiques ont engendré aussi des nouvelles maladies pour la vigne ou pas ? C'est-à-dire qu'on a eu quelques, je sais pas, des choses qui brûlaient un peu ou pas du tout ?
Alors, c'est pas vraiment des maladies, mais c'est des brûlures. Effectivement, là, cette année, on a découvert des phénomènes qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire, personnellement, je n'avais jamais vu, c'est-à-dire que des baies se sont mis à sécher complètement, même des grappes, à cause de la chaleur. Et des feuilles également se sont mis à sécher complètement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Alors, nous, fort heureusement, ces incidents ont été limités, oui. Mais dans certaines régions, comme le Gard notamment, où les températures ont été encore plus importantes que chez nous, ces phénomènes ont entraîné des pertes de récolte assez importantes.
Les 20%, Caroline, vous parliez en perte cette année, c'est expliqué notamment par ça ou il y a d'autres choses ?
Non, nous n'avons pas eu. On a eu quelques vignes qui ont des feuilles jaunes, mais pas tant que ça. Non, c'est plus le stress hydrique la maturité ne se fait pas.
Merci beaucoup Caroline et Bertrand. Suite de l'émission spéciale de Nuits au Sud Radio consacrée à l'appellation Beau de Provence en direct du domaine de la Valongue. Dans un instant, je recevrai F. Cartier et Jean-André Charial.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au domaine de la Valongue pour ce numéro spécial consacré à l'appellation Beau de Provence. Je rappelle que depuis 15 ans, Invino est la seule émission de radio au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. À mes côtés, deux nouveaux invités, ils sont formidables, Eve Cartier et Jean-André Charial. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On commence par Eve, qui a très envie de parler en plus. Quoi. Alors racontez-nous, c'est une affaire familiale, votre masque du Gourgognier, 5e génération, c'est une belle aventure entrepreneuriale et familiale.
Tout à fait. Donc,
qui l'a créé ? C'est l'arrière.
Voilà, avant c'était une ferme de l'abbaye de Pierredon qui est juste derrière le mas de Gourgognier. Et puis c'est mon grand-père qui a développé les vignes dans les années 50. Mon père et mon oncle ont repris par la suite et puis moi je prends doucement la relève, j'espère.
Doucement. Vous avez combien d'hectares au total plantés en vigne uniquement ?
On a 45 hectares de vignes.
45 hectares, et donc ça produit en moyenne combien ?
Alors, dans les bonnes années, 180 000 bouteilles à peu près. Comme on
oui, Bertrand et Caroline nous parlaient de ces années un peu problématiques. Vous aussi, ça a un peu séché les raisins, tout ça là.
Oui,
on a eu moins de quantité. Caroline parlait de 20% au moins. Vous êtes à...
Nous, on est aux alentours de moins 50%, je pense.
Après, moins 50% c'est... en volume
ouais, ouais.
Ah, mais c'est énorme.
Oui, ça va être très dur. Ouais.
D'accord.
La qualité est très belle, c'est très beau jus. Bon, c'est le début des vendanges, on n'a pas encore toutes les infos. Mais voilà, très beau jus, mais très petit rendement, très petite baie. On a eu beaucoup de sécheresse, beaucoup de stress hydrique lors de la canicule du 28 juin. Des raisins qui ont séché complètement.
Donc, oh là là.
Ça a été
la production, vous avez une majorité en rosé, en blanc, en rouge
En rouge, comme tous les domaines des beaux. Ouais. On fait 60% de rouge, à peu près 40% de rosé et 10% de blanc.
Et cette tendance, effet de mode. Pardon ?
30 et 10.
Ouais, 30 et 10, quoi.
Ah, voilà.
Oui, total. Enfin, on compte bien. Hop, ça fait sens, c'est bon. Sinon, on demandera à monsieur HEC ce qu'il en pense pour le comptage des bouteilles, quoi. Le rosé, à l'époque, c'était un phénomène de mode. Maintenant, c'est une tendance durable. On la sent également ici. Les gens demandent du rosé ?
Oui, demandent du rosé. C'est assez stable. Les ventes sont stables. Encore que cette année, je trouve qu'on a vendu beaucoup de rouges.
Beaucoup de rouges, oui. Malgré une année de canicule, ce qui peut être paradoxal.
Oui, c'est assez étrange.
Et donc, comme pas mal de domaines ici, vous produisez du vin, d'un excellent vin, mais également de l'huile d'olive.
Oui, aussi. On a de l'huile d'olive, on a 20 hectares d'oliviers voilà, qu'on vend essentiellement au domaine.
Oui, essentiellement au domaine.
Autant le vin, on fait un petit peu d'exportation, mais l'huile d'olive est vendue au domaine.
Et vous aussi, donc, vous avez fait le choix du bio, comme précisé tout à l'heure. Oui. Caroline, notre présidente. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix naturel, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on y va, on va essayer de produire mieux, meilleur.
Oui, oui, alors nous, on est certifié Nature et Progrès depuis 1975, grâce à c'est mon grand-père qui a toujours fait du bio. Il disait que si on ne faisait pas de bio chez nous, on n'en faisait nulle part. Et je pense que...
La sagesse du grand-père.
C'est pas faux. voilà, le Mistral, la enfin, il fait sec, il n'y a pas d'humidité, il y a du Mistral. Donc c'est vrai.
Et vous exportez un peu vos vins ou alors vous êtes...
Oui, on fait pas mal d'exportations. On fait presque 40% aux États-Unis.
Ah oui, ce qui est pas mal visiblement. Et aux États-Unis. Et donc là, vous avez quoi? Vous trouvez un importateur ou vous avez créé une petite filiale?
On a une dizaine d'importateurs. Assez fidèle.
Et pour la promotion des vins, qu'est-ce que vous faites? Vous participez à des salons, vous essayez de faire soit des actions collégiales, Caroline, avec l'appellation, soit alors individuelles avec chaque domaine?
Oui, alors on fait, bien sûr, on participe au Rallye des Beaux, qui a un grand succès.
La semaine prochaine, c'est samedi, là, attention, là,
Voilà, et après, on fait quelques salons, principalement dans la région, on fait un petit peu les marchés de Noël pour promouvoir un petit peu l'appellation et les vins des Beaux.
Ouais. Et ces problématiques, notamment de réchauffement climatique, ça vous perturbe un peu? On en parlait tout à l'heure avec Caroline, avec Bertrand, vous êtes concernés, évidemment.
Oui.
Et on se dit quoi? On prie pour que l'INRA trouve les bons cépages, pour qu'on s'adapte?
Oui, et que ça aille vite, parce que le réchauffement va très vite, et la recherche des cépages, et plutôt, ça prend du temps forcément.
La date de vendange, c'est-à-dire que ça a vraiment augmenté depuis 10 ans, les dates des vendanges, le début des vendanges en tout cas?
Pas tant que ça, mais c'est le stress des vignes qui est plus important. On a de la sécheresse, on a moins de pluie en été, donc forcément plus de concentration dans les baies et moins de quantité. Donc après, comme disait Bertrand, il va falloir s'adapter au climat, ça a changé les cépages, changé peut-être les méthodes de...
Mais il y aura toujours de la vigne ici.
On espère qu'il y aura
toujours. Et les vendanges, alors est-ce que c'est facile de trouver des vendangeurs là? Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était les jolies suédoises qui venaient nous voir en France. Là. Et là, ça a changé, non? C'est plus compliqué, non?
Alors, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a pas mal de... Nous, on trouve pas mal d'étudiants. Après, on fait... on fait une partie à la machine. On fait une petite partie...
Une partie à la machine, d'accord. Ah, oui.
Et puis, pour le reste, on a une équipe de jeunes qui viennent...
Donc, vous galérez pas comme d'autres vignerons qui se disent « j'ai du mal à trouver du monde ».
C'est assez... ça se passe plutôt bien.
Merci. En tout cas, une vidéo sur Radio accueille maintenant Jean-André Charial. Alors, au départ, vous êtes diplômé d'HEC. Il y a une option cuisine, HEC?
Oui, c'est Léo d'études culinaires. C'est mon grand-père qui était le fondateur de l'Hôtel de Beaumanière qui m'a demandé si je voulais le rejoindre.
Vous aviez une première vie en dehors ou pas?
Non.
Directement?
Directement, oui. Enfin, à part un stage à HEC au Waldorf Astoria, et puis j'ai fait mon service militaire dans la coopération comme directeur d'un hôtel à Monastir. Ah, oui. À part ça, c'est...
Ouais, sinon c'était entre bercail, quoi.
Voilà.
Ah, vous avez fréquenté plein de chefs géniaux, Trois Gros, Chapelle, Bocuse. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre?
Peut-être Girardet.
Girardet?
Oui. Et c'était un homme exceptionnel. Enfin, il est pas mort, hein, mais il fait plus la cuisine. Donc c'est pour ça que j'en parle au passé. Mais c'était, j'ai beaucoup aimé cet homme et cette façon qu'il avait de faire la cuisine, qui était d'une spontanéité exceptionnelle. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on ne savait pas ce qui allait être à la carte et il décidait comme ça. Et c'était extraordinaire.
Et vous, votre philosophie de la cuisine, vous faites les choses comment? Comme Girardet, vous avez autre chose?
Moi, ce que j'aime, c'est la nature. Donc il faut que les produits soient le plus naturels possible. La nature, la sincérité dans la cuisine. J'aime pas les trucs trop compliqués, les zizi, toutes les décorations, un peu bling-bling, tout ça. J'aime
tout
pas
ce
ça.
Qui est moléculaire, tout ça, vous aimez
non,
bien?
Non, pas trop.
Quoi. Quelques noms peut-être de chefs bizarres? Non, je plaisante.
Non, oui. Non. Non, j'aime les choses simples. Parfois, la simplicité, c'est ce qui est le plus difficile. Et donc, on se rend pas compte, mais derrière un plat qui paraît simple, il y a beaucoup de travail. J'aime particulièrement les légumes. J'ai mon propre potager depuis des années où je ramasse des petits pois, des haricots verts, enfin qu'on peut pas trouver sur les marchés parce que je les ramasse avant qu'ils soient grands.
Oui.
Donc ça suppose un... Non, mais on rigole, mais il faut passer dans les raies plusieurs fois pour les ramasser comme on... de la taille.
Petit pois par petit pois.
Oui. Ouais, non.
C'est du boulot. Hein,
c'est beaucoup de boulot. Mais on a des produits exceptionnels. Bon, mon jardin est bien évidemment bio, hein, puisque...
Vin bio, jardin bio, tout est bio.
Oui, parce que quand j'ai commencé ma carrière de vigneron, j'ai commencé à... Parce que j'ai créé le Château Romanin en 87, et j'ai commencé tout de suite à faire de la culture en biodynamie, ce qui, à l'époque, n'était pas si courant. Les gens me regardaient d'un drôle d'air. Comme si j'étais le chef d'une secte.
Oui, maintenant,
c'est, tout le monde sait ce que c'est, mais il y a 32 ans, c'était pas le cas.
Et alors, au niveau collaborateur, on parlait tout à l'heure des vendanges avec Eve, des vendangeurs, donc là, pas trop de problème. Vous, en cuisine, vous avez du mal à trouver du personnel ou pas?
Oui, on a beaucoup de mal.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux jeunes, aux moins jeunes, vous les réveiller en leur disant, allez, venez travailler avec moi?
Il faut leur dire que c'est un métier passionnant, mais c'est vrai que c'est un métier très exigeant, que ce soit en salle ou en cuisine. Hein, Il faut travailler beaucoup, et on fait beaucoup d'heures. Mmh. Et il faut travailler le samedi, il faut travailler le dimanche, il faut travailler le soir. Et c'est ça qui décourage un peu cette jeune génération. Voilà, mais quand on accepte de travailler le soir, quand on accepte l'idée du service, c'est pas être un esclave que de faire un service de qualité, de faire plaisir aux gens. Et bon, à ce moment-là, on peut avoir de très grandes satisfactions dans ce métier. Et puis c'est un métier aussi où il y a un ascenseur social important. C'est-à-dire qu'on peut démarrer tout en bas et finir directeur. C'est pas impossible.
Et alors aujourd'hui, donc, vous avez au total plus de 300 collaborateurs. Le groupe réalise plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez quelle offre en termes de restauration et d'hôtellerie dont vous avez différents pôles?
J'ai deux offres en hôtellerie, hein, puisqu'il y a l'hôtel Beaumanière avec deux restaurants, Lousteau de Beaumanière, la Cabre d'Or et un spa. Et puis j'ai un autre les châteaux qui s'appelle le Prieuré à Villeneuve-les-Avignon, avec une quarantaine de chambres et aussi un autre restaurant. Puis j'ai un autre restaurant à Courchevel aussi pour la saison.
Qui est ouvert uniquement en saison, quoi. Ouais. Alors comment se porte Monsieur Obama?
Ben, Monsieur Obama va très bien. On était très contents de le recevoir. Voilà, on ne savait pas qu'il allait venir. C'est décidé au dernier moment. Et comme d'habitude, c'est toujours la sécurité qui vous casse les pieds.
Ah bah oui, mais bon, c'est pas n'importe qui qui aime ce garçon. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai, mais qui se déplace avec sa famille, c'est une chose, mais il y a toujours 15 personnes du FBI, de la CIA, enfin, qui contrôle ça va des extincteurs à l'air conditionné.
Ah, ils ont tout vérifié, quoi.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que comme ils veulent pas que les gens fassent des photos, ils avaient décidé de le faire manger à l'intérieur. Bon, alors on dresse une grande table. Oui, à l'intérieur, c'était le sol, donc on dresse une grande table, c'était dans un salon privé. Puis quand il arrive, il s'assoit, il dit « Moi, je vais manger dehors. »
Alors la sécurité s'affole.
Exactement. Exactement. Ouais. Donc il faut, au dernier moment...
Est-ce qu'il a goûté les bons vins de la région ou pas?
Oui, il avait goûté le vin qui n'est pas dans l'appellation, le plus connu, qui est très vallon.
Votre avis sur le côté œnotourisme, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais Corinne également, la présidente. Est-ce que c'est fondamental? Ça vous concerne également ici? C'est un axe important?
Oui, je pense que c'est un axe qui est amené à se développer. Hein. C'est-à-dire que les clients, que ce soit des acheteurs de vin ou des clients de restaurants ou d'hôtels, ont envie de choses authentiques,
oui,
et naturelles, et donc ils ont envie d'avoir des expériences et d'être au contact avec les gens qui font, et que ce soit ceux qui font la cuisine, que ce soit ceux qui font le vin, etc. Et donc ils ont besoin de les rencontrer et de parler avec eux.
De les toucher quelque part,
oui, ça me semble très important, moi.
Ouais. Caroline Mistoff, vous en pensez quoi, le tourisme? On n'en a pas parlé, c'est important. Alors déjà, au caveau, de fait, vous recevez du monde?
C'est très important. C'est vrai qu'on a une très jolie région, les Alpes, c'est quand même un coin qui attire un grand nombre de touristes. Les Baux-de-Provence, c'est quand même le deuxième village le plus visité de France, donc au cœur des Alpes. Et je crois que chacun des domaines travaille sur la question et offre au tourisme beaucoup de possibilités de venir déguster, d'organiser même des soirées, des événements, et je pense que c'est très important pour nous, et je pense que ça se développe excessivement bien par rapport à il y a 10 ans.
Pour terminer, chacun, votre meilleure bouteille dégustée, elle n'est pas les vôtres, on va oublier vos domaines, on commençait par vous par exemple, Jean-André, votre meilleure souvenir de dégustation de vin, c'était quoi? On va pas demander avec qui, hein, mais c'était quoi?
j'ai pas réfléchi, j'ai eu beaucoup de souvenirs, peut-être c'est un ermitage de Jean-Louis Chab.
Très bien. Et vous, Ève? Hors de la région, parce que vous...
Oui.
Oui, très bien, Caroline.
Château Rayas.
Ah, Rayas, c'est parfait. Et vous, Bertrand?
Moi, c'est un bon romané de Denis Mortet.
Parfait, excellente adresse. Merci à tous les trois. Un grand merci également à vous, Bertrand, de nous accueillir, d'avoir ouvert les portes de ce beau domaine, domaine de la Vallon, pour cette émission spéciale consacrée aux vignobles des Baux-de-Provence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se donne rendez-vous demain à 12h30. On sera en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Pour l'heure, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.